On dit toujours qu'il n'y a pas de petits dons. Bon, on entend ça souvent, c'est le cœur qui doit parler, nous dit-on, mais qu'arrive-t-il quand on est un organisme et qu'on doit acheter une nouvelle maison pour offrir ses services ou même qu'on doit assurer la pérennité d'un orchestre, professionnel à long terme? Bon, enfin, toutes ces choses-là nécessitent beaucoup plus de ressources. Et c'est pour ça qu'on invite Jacinthe Roy, directrice générale de la PGP, pour nous expliquer quel genre de dons on doit demander dans ce temps-là. Bonjour Jacinthe Roy.
Bonjour Benoît.
Alors, c'est quoi le don qui pourrait nous aider à des acquisitions plus grandes, à des activités qui coûtent un peu plus d'argent?
Bien, on parle alors de dons majeurs.
Aha.
Oui, alors aller chercher des plus gros dons qu'on va aller chercher habituellement dans nos campagnes annuelles. Benoît, vous vous rappelez, on a parlé beaucoup d'ambassadeurs, de campagnes personne à personne, mm-hmm. d'activités de financement, où là, on va aller chercher vraiment la pépinière de nos donateurs.
Mm-hmm.
Et quand on va rentrer dans une campagne qui est un peu plus majeure, plus importante en termes d'objectifs, on va se dire, bien, qu'est-ce qu'on fait avec cette pépinière de donateurs-là pour les amener plus loin?
Donc, on a effectivement un gros potentiel de donateurs qui peuvent consentir des montants importants. Mmh. Comment on arrive à solliciter ces gros dons-là? Est-ce qu'il faut être vendeur?
Oui, bien, en fait, on compare souvent le don majeur et même, en fait, les activités de collecte de fonds annuelles à la vente. Et je m'inspire aussi pour ma chronique d'aujourd'hui. En fait, j'ai reçu, en toute honnêteté, une infolettre là, que j'aime beaucoup, qui est de Writers Group.
Okay.
C'est en anglais, donc je voulais la partager avec le plus grand nombre de personnes aujourd'hui en français.
Ah
et,
oui, merci.
Je pense que je vais la partager aussi sur votre site web, sans aucun doute. Et dans les dernières infolettes, on comparait beaucoup, alors c'est ça, les compétences qu'on a besoin dans la vente. Vente de produits et celles qu'on a besoin en don majeur aussi. Donc, on identifie des compétences qu'on peut développer et des compétences qu'on ne peut pas développer, donc qu'on a en nous.
Ah, donc c'est pas tous les profils de gens qui pourraient solliciter des dons majeurs, c'est ce que vous pensez?
Exactement, okay. Exactement. Donc, ce qu'on dit dans les compétences qu'on peut développer qui viennent de la vente et puis qu'on s'approprie en don majeur, en fait, bien, comme je vous disais tantôt, on part de, avant de partir en campagne majeure puis de solliciter à droite, à gauche, on part de ce qu'on a déjà, nos acquis de donateurs existants.
Okay.
Fait que ça, c'est d'avoir le réflexe de se tourner vers les acquis de l'organisme.
Oui, c'est ça. On commence toujours par ceux qui nous sont acquis. Ils coûtent quand même moins cher que solliciter des gens qui ne nous connaissent pas.
Oui, parce qu'ils ont déjà coûté très cher à les acquérir. Hein? Donc,
bon, voilà.
On veut rentabiliser là, notre investissement. On parle aussi de gestion de temps.
Mm-hmm.
Donc, en don majeur, on est beaucoup aussi dans le relationnel. Hein? Là, on va développer des relations, on apprend à connaître nos donateurs. Donc, il faut se préparer des plans. Donc, quand je vise un donateur, ben je vais faire mon plan d'approche, mon plan de suivi, mon plan de fidélisation.
Okay.
Donc, ça va être très important de gérer son temps pour développer la relation, pour avoir un sens des affaires.
Ouais.
C'est quoi le sens des affaires? Il faut savoir quels sont les besoins déjà de notre organisme.
Oui. Donc, il faut trouver exactement ce qu'on doit vendre. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça.
Oui,
il faut identifier comme il faut ce qu'on doit vendre même.
Oui, parce qu'il va falloir identifier les opportunités de vente pour notre donateur. Donc, et là, quand je parle relationnel, en don majeur, il faut connaître c'est quoi les passions, les intérêts, les besoins du donateur.
Ah, ça va jusque-là?
Oui, parce qu'on va créer des liens. Donc, j'ai des besoins d'organisation, mon donateur a des besoins. Qu'est-ce que je peux lui offrir qui vont répondre à ses aspirations, à ses rêves?
OK. Donc, c'est vraiment une approche hautement personnalisée que ça commande.
Exactement.
Il faut même constituer, est-ce qu'on va jusqu'à constituer un dossier sur les personnes qu'on va approcher?
Oui, puis souvent de là l'importance, quand on parle de base de données, là, trop souvent on se sert dans des organisations de base de données pour émettre des reçus, mais c'est plus que ça. Là. Quand on est dans un organisme corporatif, la base de données, c'est un outil de connaissances incroyables sur les clients, mais ça devrait être la même chose. Donc, on emmagasine l'information, les rencontres, les appels, lors des échanges avec les donateurs aussi, qu'est-ce qui est ressorti des conversations. Donc, notre base de données doit aller plus loin là, que la simple gestion de reçus.
Oui, c'est ça. Donc, il faut, comme dirait l'autre, il ne faut pas juste inclure ce qui va sortir, il faut inclure ce qui pourrait rentrer, donc l'argent.
Donc, on a du quantitatif et du qualitatif.
Oui, et du qualitatif aussi. Donc, il faut connaître, écrire un peu sur l'histoire, les passions, les intérêts. On comprend bien. C'est intimidant pour les gens d'avoir peut-être un aussi gros montant à demander, mais est-ce qu'on peut parfois demander de l'aide si nous, personnellement, on ne se sent pas capable d'approcher un grand donateur?
Bien, en fait, ça fait partie aussi là, des compétences qu'on n'acquiert pas, qu'on a en soi, et on se dit, est-ce que je suis un bon vendeur au départ? Et ma réflexion m'a amené à répondre à votre question en me disant, oui, on peut aller chercher de l'aide, bien entendu, mais est-ce qu'on est au bon endroit, nous? Donc, en tant qu'avoir, c'est là qu'on va regarder du côté de notre propre personnalité.
Ouais.
Est-ce qu'on est assez curieux pour être dans ce poste-là? Parce que s'il faut savoir connaître les rêves, les espoirs, les besoins de notre donateur, il faut poser des questions.
Ouais. Mais pas juste poser des questions, il faut être sincère dans les échanges aussi.
Oui, bien, il faut être empathique.
Oui, voilà.
C'est la clé. Il faut être intègre. Donc, si on a un employé qui est en collecte de fonds, qui module un peu les faits selon le donateur qu'il rencontre. Donc, je me mets en tête, là, je ne voulais pas citer là, une certaine autre conseillère politique américaine, là, mais tu sais, on peut pas jouer avec des alternative facts.
Oui, c'est ça.
Il faut qu'on soit dans les vrais faits, donc oui, de nos impacts. On peut pas moduler selon la personne à qui on s'adresse.
Puis c'est transparent. La pression est encore plus grande avec un grand donateur parce qu'on parle des grands secteurs de notre organisme. Donc, on peut pas mentir sur ce qu'on fait, au fond. Là.
Mais jamais.
Je dis pas qu'il faut mentir, mais quand on entend le vendeur, vous êtes d'accord avec moi, Jacin, quand on entend le mot vendeur, c'est un vendeur particulier que le vendeur pour les dons majeurs. Là, c'est un vendeur intègre.
Oui, il le faut toujours.
Okay.
Il faut avoir, et là j'ai encore un anglicisme, mais il faut avoir de la drive. Il faut pas se décourager, il faut être fonceur, parce que pour plusieurs refus, on va avoir un oui.
Okay.
Et ce oui-là, il risque d'être payant.
Ben écoutez, c'est une bonne finale. Jacin Troy, merci d'être avec nous mois après mois. Vous êtes directrice générale de l'Association des professionnels en gestion philanthropique. Merci, Jacinthe.
Au plaisir.